mais les opinions ne sont pas uniformes à cet égard. Il y a en gros deux interprétations possibles et qui sont défendues par les uns ou les autres. On peut voir en lui un païen d'origine et on peut voir en lui un juif. C'est la grande division quant à l'homme naturel. Ceux qui pensent qu'il serait juif font valoir que l'Antichrist doit singer le Christ, qui était enfant d'Israël, et supposent eux-mêmes qu'ils peuvent dire de quelle tribu il serait originaire. Ils pensent que c'est de la tribu de Dan. Alors, l'argument est le suivant. Dans la bénédiction de Jacob, au chapitre 49 de la Genèse, lorsque Jacob en vient à Dan, il a comme un mouvement de recul ou d'angoisse, on ne sait pas très bien, devant Dan qui semble avoir un caractère plus âpre et plus violent, peut-être plus sournois que ses autres frères. Et d'autre part, dans le livre de l'Apocalypse, dans le grand passage où nous voyons les 144 000 qui représentent, à mes yeux, la multitude des rachetés, nous avons 12 000 de chacune des tribus d'Israël, 12 de chacune des 12 tribus. C'est en Apocalypse 7, marqué du sceau. Mais si vous suivez cette liste attentivement, à partir du verset 4, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, etc. Vous remarquez que la tribu de Dan n'y est pas. La tribu de Dan n'est pas mentionnée. Alors ça fait 12 quand même, parce que Lévi a été réintroduit pour faire le compte, mais en fait, donc la tribu de Dan ne s'y trouve pas. Alors certains disent, donc ça c'est que l'Antichrist doit venir de cette tribu de Dan. Ceux qui pensent, au contraire, qu'il vient du paganisme, font valoir que d'après la vision du chapitre 13, qui voit monter la première bête que nous avons identifiée à l'Antichrist, cette bête monte de la mer. Or, dans la symbolique générale de l'Écriture, la mer représente les nations. Nous voyons les nations représentées comme des vagues tumultueuses de la mer qui mugit dans pas mal de passages. Et donc dire de la mer, ce serait dire du paganisme. Et comme la première bête a beaucoup de traits qui rappellent l'Empire romain du temps de Jean, l'auteur de l'Apocalypse, alors il semble naturel de dire c'est un homme semblable aux empereurs romains qui, bien sûr, n'avait pas de sang juif. Voilà les deux hypothèses qui sont proposées. Alors, je ne veux pas, quant à moi-même, trancher. Il me semble que les arguments basés sur l'absence de la mention de Dan dans ce chapitre 7, ces arguments-là ne sont pas très très solides. Parce qu'il existe d'autres listes où une tribu n'est pas mentionnée. Et de toute façon, on peut comprendre ce changement, cette absence de Dan remplacée par Lévi, par une volonté de symbolisme. C'est pas l'Israël au sens littéral, c'est l'Israël spirituel qui est en cause. Et alors, pour bien montrer ça, Jean a changé. C'est pas la simple liste des tribus que l'on connaît bien, une petite modification pour indiquer que l'interprétation doit être spirituelle. Voilà, en tout cas, une possibilité de comprendre qui vaut bien l'autre. Donc il me semble que l'argument n'est pas là d'une très grande solidité. L'argument de la singerie du Christ m'attire davantage, je dois dire, parce que je pense que ce thème-là est important, que c'est un thème qui est évident dans le traitement que donne l'Apocalypse, cette bête qui s'élève contre le Seigneur, en même temps essaie de l'imiter. Et je vous en ai donné des preuves la dernière fois, je crois, la blessure à mort, et puis cette espèce de résurrection. Le nom qu'elle porte, elle était, elle n'est plus, et elle viendra, qui est comme une singerie du nom divin, il est, il était, il vient. Le terme de parousie, qui est employé pour cette bête ou antichrist, je crois que tous ces éléments montrent qu'il y a une volonté de singerie. Alors je me dis, Satan, malin comme il est, il pourrait bien choisir, en effet, un enfant d'Israël, pour en faire son faux messie, son antichrist. Ça, c'est l'argument le plus fort. Il n'est pas un argument directement biblique, mais c'est un argument qui se fonde sur ce qu'on peut imaginer de la subtilité satanique. Alors, c'est un argument donc qui n'a pas une force de preuve. Et on peut dire que si cette bête monte de la mer, c'est que de toute façon, l'empire de cet antichrist, de cet adversaire ultime, sera un empire de type mondial, comparable à l'empire romain, et que par conséquent, il aura un caractère païen. Et ainsi, il monte de la mer. D'ailleurs, je vous ai fait déjà remarquer la dernière fois que la bête, c'est à la fois la bête et puis une tête particulière de la bête. Que vous avez cette dualité. Vous avez la bête et puis celui qui la résume, finalement. La bête est le même. Elle est présente tout au long de l'histoire. En tout cas, ce n'est pas à un point précis du temps qu'elle se situe, mais c'est plus spécialement donc une de ses expressions qui est appelée la bête. C'est la bête dans sa concentration paroxystique. C'est en particulier au chapitre 18 que nous avions vu des passages, au chapitre 17 nous avions vu un passage intéressant à ce propos. N'est-ce pas la bête? Elle a 7 têtes et elle a 10 cornes. Alors les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous allons parler de la femme tout à l'heure au verset 9. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, elle est aussi l'un des 7, et elle s'en va à la perdition. Donc, la bête est une des têtes de la bête, et même 2, une des 7 et la 8e. Vous voyez la complication de ce jeu symbolique. Alors, la bête tout entière monte de la mer. C'est la puissance du paganisme opposée au vrai Dieu, qui est le Dieu du vrai Israël. Mais c'est en même temps, alors, une tête particulière qui concentre toute la puissance de la bête. D'ailleurs, il me semble que même, on peut encore jouer sur un double registre à propos de ces 7 têtes qui sont 7 rois et un 8e et un des 7 à la fois. En général, on pense que l'apôtre Jean a voulu parler d'empereur romain. Ça, c'est, disons, les commentateurs les plus prestigieux dans le monde académique qui comprennent comme ça. Il a pensé à des empereurs romains. Alors, on cherche lesquels. Là, on n'est pas d'accord. Mais les interprétations de certains évangéliques qui projettent tout uniquement dans l'avenir pensent souvent alors à des dictateurs particuliers qui se succéderaient dans une brève période des derniers temps. Moi, je n'exclus pas cette façon de comprendre, mais je vous en propose une autre. À mes risques et périls. Je me demande si nous ne devons pas penser en termes de royaume aussi. Roi et royaume, vous savez, les deux termes peuvent être pris assez semblablement, on le voit dans Daniel 7. Et justement, dans Daniel 7, nous voyons 4 rois ou royaumes, qui sont l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, qui lui a succédé dans l'ordre historique, l'Empire grec et l'Empire romain. 4. Ces 4 royaumes, qui sont appelés aussi 4 rois à un moment, sont mentionnés dans cette vision. Or, l'apocalypse de Jean est très étroitement lié à l'apocalypse de Daniel. C'est une apocalypse, le livre de Daniel, en un sens. Et je me suis tout à coup rendu compte, réfléchissant à cela, que si vous faites le compte des empires qui se sont succédés dans l'histoire d'Israël, vous arrivez à 6. Jusqu'à l'Empire romain. C'est arrivé à 6 ans l'Empire romain. Vous avez les 4 de Daniel, bien sûr, mais avant eux, vous avez 2 grands empires, 2 puissants royaumes qui ont asservi Israël, qui ont asservi le peuple de Dieu. Avant les Babyloniens, c'était les Assyriens, et avant eux, plus anciennement, c'était l'Égypte. L'Égypte, la maison de servitude. Donc si vous prenez l'ensemble des empires dont il est question dans l'Ancien Testament, vous en trouvez 6. Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grec, Romain. Le Romain étant le 6e. Pensez à 666. Le Romain étant le 6e. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer que ces 7 têtes correspondent aux sept empires des sept grandes périodes de l'histoire, avec un huitième final, qui serait l'un des six. Dire, les sept têtes représentent toute la puissance des grands empires qui se succèdent dans l'histoire. Alors, cinq sont tombés. Vous remarquez, ce cinq sont tombés. C'est-à-dire Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grec. L'Empire romain, le sixième, est encore en place. Donc, vous voyez, cinq sont tombés au moment où écrit l'apôtre. Le sixième doit rester un certain temps, et puis un septième doit venir. On pourrait interpréter cela de toute la période, en quelque sorte, après la destruction de l'Empire romain. Et puis, la bête doit revenir huitième, une sorte d'Empire romain reconstitué, à mon avis, pas forcément dans les mêmes frontières, mais avec les mêmes caractères que l'Empire romain de domination universelle, d'oppression de tous les peuples. C'est un des six, c'est l'Empire romain. Un des sept, c'est l'Empire romain. Blessé à mort, semble-t-il. Et puis, qui, dans un dernier temps, devient le huitième. Je vous propose cette interprétation, hein, sans vous l'imposer du tout. Moi-même, je me rends bien compte que c'est assez spéculatif. Mais ça me paraît une interprétation possible, au moins, de ces chiffres qui sont là et qui nous libèrent de la nécessité de retrouver des empereurs romains qui puissent cadrer avec le schéma que nous avons ici. Bon, alors, la bête montante de la mer, ça peut représenter le caractère païen de son empire et donc pas spécialement l'origine individuelle de cet homme. Alors, vous avez le dossier devant les yeux. Si cependant on dit que, comme il monte de la mer, ce n'est pas lui qui vient du judaïsme, alors on ouvre la possibilité d'une interprétation intéressante de la deuxième bête dont il est question dans l'Apocalypse. Il n'en est question que dans l'Apocalypse. Cette deuxième bête monte, elle, de la terre. Et elle a un autre caractère. La première bête, c'est la bête principale, sans aucun doute. Mais à partir du verset 11, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Ça, c'est donc vraiment le symbolisme de l'hypocrisie. C'est la voix du dragon, c'est-à-dire de Satan. C'est pas, il est appelé le dragon dans l'Apocalypse. Le serpent ancien, le dragon. Et puis, c'est l'apparence de l'agneau. Elle se déguise. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, par délégation en quelque sorte. Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Seconde bête, comme l'acolyte de la première, et sans l'avoir comme rôle, le ministère de la propagande, comme Goebbels, c'est-à-dire le grand prêtre du régime hitlérien, où Hitler était adoré, cette seconde bête, c'est celui qui va exercer au nom de la première le pouvoir idéologique et entretenir le culte de la personnalité de l'Antichrist. C'est ce qui semble. Avec la capacité de prodige, animer l'image de la bête, certains ont pensé à la télévision, vous savez, parmi les interprètes de notre temps, encore, moi je ne sens pas la liberté d'exclure purement et simplement ce genre d'interprétation, mais je pense qu'il faut d'abord chercher ce que Jean lui-même, écrivant cela, pouvait penser. Alors on sait que certains magiciens de l'Antiquité s'arrangeaient pour animer des statues, je crois que ça s'appelle la télématique, et il produisait ainsi de grands effets sur les foules qui venaient adorer. Et c'est sans doute donc à des prodiges de magie, de sorcellerie, comme celle des magiciens d'Égypte s'opposant à Moïse, que Jean pense ici. C'est un homme qui saura organiser d'une manière admirable le faux culte de cet antichrist. Alors pourquoi est-il ici présent ? Je pense que Jean y a été conduit parce que Jésus a mentionné les faux Christ et les faux prophètes ensemble. faux Christ et faux prophète dans son discours de Matthieu et des autres évangiles synoptiques. Il y a cette dualité dans la parole de Jésus. Jésus ne développe pas, mais il y a le faux Christ, c'est l'antichrist. Il y a aussi les faux prophètes. Alors, ils sont représentés ici par la deuxième bête. Et du coup, il y a une singerie de la Trinité. Car le dragon correspond au Père, celui qui a son plan, qu'il accomplit. L'antichrist correspond au Christ, au Fils. Et la deuxième bête correspond au Saint-Esprit, qui est l'esprit de prophétie, qui est le témoin du Fils, et qui, pourrait-on dire, organise le culte du Fils dans l'Église chrétienne. C'est le Saint-Esprit, qui est celui qui parle pour du Fils et pour le Fils, et qui est aussi la puissance qui permet les miracles. Cette deuxième bête est la singerie du Saint-Esprit, comme la première bête est la singerie du Fils Christ. Vous voyez comme tout est ici remarquablement organisé. Alors celui-là, il monte de la terre. Donc on pourrait penser plus particulièrement à quelqu'un ici du judaïsme, si on accepte d'utiliser ainsi ces données du symbolisme. L'antichrist représente la puissance du paganisme à son point extrême, et la deuxième bête représente l'utilisation d'un faux judaïsme à son profit. Voilà comment on pourrait interpréter. Alors vous avez donc une fausse trinité, une trinité de singerie, et à la trinité, verrait à la trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est associé dans tout le Nouveau Testament? Bien sûr, c'est l'Église. Elle n'est pas membre de la Trinité, mais elle est l'épouse du Fils que l'Esprit prépare pour les noces avec son époux divin. Vous avez association de l'Église, la Jérusalem de Dieu, à la Trinité Sainte. Eh bien, dans l'Apocalypse, nous avons une association, semble-t-il, semblable. Le parallélisme continue. De même qu'il y a une épouse qui est Jérusalem, la vraie Jérusalem, pour le Fils, vous avez pour l'Antichrist une prostituée qui est Babylone. Vous voyez, la correspondance est extrêmement claire. Alors il est question, spécialement au chapitre 17, de cette Babylone, Babylone la Grande. L'opposition entre Jérusalem et Babylone, vous savez, ça commence tout au début de la Bible, pratiquement. Parce que Babel, c'est Babylone. Souvent, les gens n'y pensent pas parce que nous avons mis deux mots en français. Mais en hébreu, le nom de Babylone, c'est Babel. Il n'y a pas deux mots, c'est un seul. Babel, c'est Babylone. Babel, c'est Babylone, c'est la cité qui exprime la volonté de l'homme de se bâtir un système absolu qui lui permette de se passer de Dieu. Alors Babylone est ici l'antithèse de Jérusalem et la prostituée par opposition à l'épouse de l'agneau. Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Et alors elle est portée par la bête. Comme le Christ prend soin de son Église, la bête sert de monture pour cette prostituée Babylone, persécutrice des saints, des véritables disciples du Seigneur. Alors qu'est-ce que cette Babylone? Comment devons-nous interpréter, si nous cherchons dans l'histoire, alors une correspondance, comme nous l'avons fait donc, pour l'Antichrist? De nouveau, là, il y a deux interprétations. Et de nouveau, je vais être tenté de dire c'est un peu les deux à la fois. Il y a deux interprétations. On peut interpréter Babylone comme une entité politique d'abord. C'est pour toute la cité mondiale, avec toute sa civilisation, correspondant à ce qu'a été Rome dans l'Antiquité. Il semble bien qu'il y ait une association très très proche entre Babylone et Rome. On va l'appeler Babylone pour correspondre à tous ces textes de l'Ancien Testament, mais en même temps c'est la ville des sept collines, et ça c'est Rome, la ville des sept collines. Mais d'autres disent, non, puisque c'est ce qui correspond à l'Église, l'épouse de l'agneau, ce doit être plutôt une fausse Église. Ce doit être plutôt, donc, une Église apostate, une Église qui a une foi pervertie, mais qui se prétend église chrétienne. Et l'argument de la singerie joue ici, donc le diable singe toujours ce que Dieu a fait, et d'autre part, il y a un argument qui, je l'avoue, m'impressionne, c'est l'étonnement de Jean, au verset 6, devant la vue de cette Babylone, Apocalypse 17:6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Il en a tellement vu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean, il ne devrait plus s'étonner de grand-chose. N'est-ce pas ? C'est comme ça que nous réagissons, en disant, pourquoi est-ce qu'il s'étonne tellement ? Des massacres horribles, il en a vu. Pourquoi est-ce qu'il s'étonne tellement ? Alors, certains disent, c'est parce qu'il voit dans sa vision qu'il s'agit d'une église chrétienne. Une église qui se dit église chrétienne. Elle porte ce nom-là, et elle est pourtant ivre du sang des saints. Elle persécute les vrais disciples de Jésus-Christ. Alors là, il y a de quoi étonner. Pensez à Jean persécuté, qui est au début de l'église chrétienne, pour qui l'église chrétienne est uniquement le vrai petit troupeau du Seigneur que persécutent les synagogues de Satan et les autorités politiques. Et voilà qu'il voit dans sa vision que la grande persécutrice, c'est une église chrétienne. Il n'y a pas doute que c'est impressionnant comme pensée, et que ça correspond à l'histoire. Car qui peut nier que des milliers et des milliers de témoins de Jésus aient été mis à mort par ce qui s'intitulait église chrétienne, hein? C'est impressionnant. Mais il y a quand même des arguments en sens contraire aussi, l'argument pour l'idée de civilisation, que ce n'est pas simplement une église, mais tout un système social qui... Il nous est dit, au chapitre 18, que les marchands de la terre, par exemple, pleurent tous ensemble la destruction de cette Babylone, parce que tout leur commerce va être tanké en l'air. Et, apparemment, cette Babylone est une grande métropole commerçante. Alors ça ne correspond pas quand même tellement bien à l'idée d'une église, même fausse. Alors, comment résoudre cette difficulté? Vous voyez, ce n'est pas non plus très glorieux, c'est un peu trop éclectique, mais... Un peu comme pour l'Antichrist, leader politique et religieux, je dirais que nous allons peut-être vers une synthèse de cet aspect de civilisation et d'église. Et que cette Babylone correspond à une cité de l'Antichrist, une cité mondiale, et toute pénétrée de son idéologie faussement chrétienne. Imaginez, là je projette, je ne dis pas du tout que ce soit ça que la prophétie nous annonce précisément, moi je n'en sais rien, mais imaginez une alliance entre un catholicisme moderniste et le communisme. À certains moments, on a pu avoir l'impression que c'était des choses qui se tramaient, que les diplomates du Vatican et du Kremlin s'accordaient. Imaginez qu'une telle synthèse s'opère. C'est pas fait, hein, très loin, mais imaginez. Ça ressemblerait beaucoup à la Grande Babylone. Faux christianisme, conçu comme finalement le message du socialisme. Vous en avez des théologiens aujourd'hui qui réduisent à peu près le christianisme au message marxiste. C'est ça la traduction pour eux. Un faux christianisme associé à un système totalitaire. Alors je ne dis pas que ce soit ça, hein, surtout ne me faites pas dire ça, parce que je vois certains signes de déclin du marxisme dans notre monde depuis peu de temps, mais depuis quelques années. Alors peut-être que ce n'est pas du tout du côté du marxisme que les choses vont évoluer de cette façon terrifiante. Mais je suggère donc que la meilleure interprétation pour la Babylone, c'est la vision d'une cité-église, une sorte de cité où l'idéologie ou la religion faussement chrétienne aura une part importante. Et alors ça me conduit à, disons, ma conclusion avant que nous ayons un petit moment de débat entre nous, d'entretien, parce que dans ce groupe, nous essayons toujours d'avoir quelques temps pour parler. Quel est le vrai mystère de l'Antichrist et de sa cité? J'ai souvent employé le terme de singerie, et c'est ce qui me semble nous mettre sur la voie. Je suggère que l'Antichrist correspond à une riposte satanique à l'œuvre de Christ. le vieux paganisme, qui faisait adorer à l'homme les animaux, les pierres, les plantes, etc. Il était horrible, mais il n'était pas très subtil, il était assez grossier. Arrive le Christ, qui en triomphe. Le paganisme est vraiment, historiquement c'est un fait, refoulé, vaincu, ce vieux paganisme par la diffusion de l'évangile. Ce vieux paganisme est blessé à mort. Et que fait Satan à ce moment-là? Satan, dans la marge de liberté que lui laissent ses chaînes, que fait-il? Alors il suscite un nouveau paganisme qui aura des traits chrétiens, qui ressemblera au christianisme, qui sera un faux christianisme. C'est le vieil esprit païen, bien sûr. On adore la créature au lieu du créateur, mais sous des dehors chrétiens. C'est pour ça que c'est pas seulement l'opposition au Christ, c'est la singerie du Christ qui a lieu. Les premiers antichrists, on parle de la première épître de Jean, vous voyez, ce sont de faux docteurs qui étaient dans l'église chrétienne et puis qui en sont sortis, mais qui enseignent sur le Christ une fausse doctrine, qui donc prennent le christianisme et puis le tordent. Alors ça n'a pas l'air d'être le vieux paganisme, en fait c'est un paganisme renouvelé, Saint Jean, le christianisme. Et c'est ce qui permet une sorte de résurrection du paganisme. La bête blessée à mort, c'est un des sens, je crois, c'est ce paganisme à qui le coup de l'expansion de l'église chrétienne a été porté, qui semble blessé à mort, et puis qui réussit, sous une forme antichrétienne, à ressurgir, jusqu'à cette expression finale de l'antichrist personnel. Voilà, me semble-t-il, ce qui est au fond le mystère de l'antichrist, où ce ne sont plus des animaux que l'on adore, comme chez les païens, les vieux païens, si j'ose dire. Mais c'est l'homme. Ça ressemble beaucoup plus au christianisme. Le christianisme, c'est le message du Dieu homme. Dieu qui s'est fait homme. L'antichrist, c'est l'homme qui se fait Dieu. Les vieux païens n'avaient pas ça. C'est comme un contre-coup de l'expansion du christianisme et comme une perversion de ce que le christianisme a apporté. Voilà, donc la suggestion que je fais pour l'interprétation de ce qu'est le mystère d'iniquité, de l'homme d'iniquité, de l'homme de l'apostasie, c'est-à-dire du faux christianisme. Mais maintenant, je vous laisse alors intervenir. Il y a des tas de détails sur lesquels je suis passé très très vite. Tenant compte pour une fois des contraintes de l'horaire.
Beaucoup de commentateurs pensant que l'antiquité viendra du paganisme émettent l'hypothèse de
une reconstitution de l'antiquité. Oui, oui. Nous avons un petit peu parlé donc la dernière fois. J'ai même ici une carte dressée par un commentateur de ce type-là qui pense que l'Empire romain doit se reconstituer exactement dans les frontières qu'il a eues autrefois, et que le marché commun, avec ses presque 10 nations, en est une étape préliminaire. Ici, une illustration de cette conception des choses. Et ma grand-mère, pour ne rien seler, pensait cela, et elle me disait par exemple, je l'ai déjà cité la dernière fois, mais tout ça n'était pas là, que lorsqu'elle entendait parler des mouvements séparatistes écossais, ça préparait le retour aux frontières de l'Empire romain, parce que l'Angleterre faisait partie de l'Empire romain, mais pas l'Écosse. Alors quand les indépendantistes écossais protestent contre le joug britannique, voilà, c'est le début, ça commence à remuer, et il va y avoir séparation, parce que l'Angleterre fera partie de cet empire de l'Antichrist, et non pas l'Écosse. Certains pensent comme ça. Alors, ma réaction, c'est de dire, il me semble que le langage de la prophétie, des apocalypses, n'est pas suffisamment littéral pour que nous puissions dire, ça doit être comme ça. Je n'exclus pas que ça puisse être comme ça. Si ça se passe comme ça, ça ne me fera pas un grand coup au cœur, si vous voulez. Je n'aurais pas. Et que ce n'est pas nécessaire pour que sixième tête repousse au huitième, si vous voulez, que ce soit un empire romain exactement des mêmes frontières. Si par exemple c'était les États-Unis d'Amérique qui constituaient le premier empire de l'Antichrist, je dirais, c'est pas que la prophétie se serait trompée, parce que l'empire romain, c'était au fond l'Europe, les États-Unis d'Amérique ont été peuplés par des Européens, donc quelque chose, quelqu'un retient pour le moment ce déchaînement du mystère d'iniquité. Et l'apôtre Paul dit, vous savez bien ce que c'est. Vous savez ce qu'il retient. Alors évidemment, les Thessaloniciens le savaient parce qu'il avait dû leur dire, mais les commentateurs qui sont venus après se sont un peu essoufflés à chercher quelle était la clé de l'énigme. Il y a des dizaines d'interprétations, je crois. Certains commentateurs ont fait la liste. En gros, il y a, disons, trois interprétations principales. Je vais les dire dans l'ordre qui me fait aboutir à celle que je retiens. Bon, la première interprétation, nous en avons quand même parlé l'an dernier à propos de l'enlèvement, c'est celle qui croit que c'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église qui retient le mystère d'iniquité. Alors, pour ceux qui pensent ainsi, il faut que l'Église soit enlevée pour que ceux qui retiennent l'Antichrist soient enlevés et qu'ainsi son mystère se déchaîne. Je crois que cette interprétation-là ne convient pas. Rien dans le texte ne dit que l'Église est le Saint-Esprit, c'est sûr. Et d'autre part, ça me semble contraire à la logique du début de 2 Thessaloniciens 2 que nous avions étudié. Car Paul dit, ne croyez pas, il dit ça aux chrétiens, à propos de leur enlèvement, à propos de notre réunion avec le Seigneur, notre rassemblement avec lui. Il dit, à propos de ça, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, comme si le jour du Seigneur était déjà là, ou si c'était déjà arrivé, vous savez qu'est-ce qu'il dit. Que vous devez voir d'abord, ce qui doit arriver avant. Avant, il faut que paraisse cet homme de l'iniquité, etc. Le temps de l'apostasie, qu'il aille se proclamer lui-même Dieu dans le temps de Dieu. Alors, s'il leur dit ça, je ne vois pas comment on peut dire qu'il devait être enlevé avant. Puisque justement, il leur dit, vous devez attendre de voir ça pour savoir que c'est le moment. Ça me semble contraire à la logique du développement de Paul. Donc, cette première interprétation, je l'écarte pour cette raison. Deuxième interprétation, elle est assez commune parmi de bons commentateurs, c'est celle qui y voit l'Empire romain et l'ordre qu'il a établi. Paul dirait, dans l'Empire romain, il y a quand même un ordre, une certaine justice qui est établie, et tant que cela durera, l'Antichrist, cette iniquité maximale, ne pourra pas paraître. Alors ceux qui ont entendu cette interprétation sont souvent ceux qui ont dit que l'Antichrist était le pape. Parce qu'ils ont dit, dans l'histoire, tant qu'il y avait l'Empire romain, le pape ne pouvait pas manier beaucoup de pouvoir. C'est quand l'Empire romain a été finalement ruiné que la papauté est arrivée avec tous ses pouvoirs. Et comme ils interprétaient l'Antichrist et le pape, la papauté, ça jouait. Mais d'abord, je vous l'ai dit, j'ai quand même quelques hésitations à identifier purement et simplement l'Antichrist à la papauté. Et puis, en deuxième lieu, j'ai quand même du mal à croire que Paul ait donné un tel rôle à l'Empire romain, qu'il ait tellement valorisé l'Empire romain. Ça ne me paraît pas quand même coller tellement à l'intime de l'apôtre Paul. Moi, j'ai une difficulté. Et la troisième interprétation, alors c'est celle qui me plaît le mieux, c'est celle qui considère que c'est la prédication missionnaire ou, ça revient à peu près au même, l'action divine qui permet la prédication missionnaire dans le monde qui est en cause ici. Ce qui retient la venue de l'Antichrist, c'est qu'il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations d'abord. Quand l'Antichrist aura paru, avec son pouvoir totalitaire et idéologique, moi je crois qu'il y aura encore des chrétiens, mais ils seront tous persécutés, et il n'y aura plus de possibilité de faire de l'évangélisation, plus d'émissions à la radio, plus d'affiches à coller sur les murs. Plus question dans tout le règne de l'Antichrist. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée d'abord à toutes les nations avant. C'est la seule chose dont Jésus dit qu'il faut que ça se fasse avant et qui implique que le mystère d'iniquité est retenu. La bonne nouvelle ne peut pas être prêchée sans que le mystère d'iniquité soit retenu. Alors ça me semble la meilleure interprétation. Dieu fait en sorte, il bloque par son décret, par un ange peut-être, l'action du mystère d'iniquité, pour que l'évangélisation du monde puisse se poursuivre, jusqu'au moment où le nombre des élus sera complet, le nombre de leurs compagnons de service, comme il est dit dans l'Apocalypse. Alors à ce moment-là, le dernier acte de l'histoire pourra avoir lieu. Dieu laissera se déchaîner l'hostilité contre lui pour l'écraser ensuite par l'éclat de l'avènement du Christ. Alors le mystère d'iniquité, c'est le mystère de l'Antichrist. C'est cette parade satanique qui insinue un faux christianisme et qui contre-attaque après la venue du Christ et la diffusion de l'évangile en répondant le mensonge et l'injustice. C'est ça, je crois, le mystère d'iniquité qui va donc culminer dans l'Antichrist. L'Antichrist sera ce mystère en quelque sorte personnifié et au degré le plus extrême. Alors, si on interprète comme ça, on a un recoupement avec un texte que nous avons étudié l'année dernière. Je ne vais pas y revenir en détail, mais le texte d'Apocalypse 20 tel que je le comprends. Parce que dans Apocalypse 20, nous voyons justement une chaîne qui retient. Une chaîne, ça retient. Une chaîne qui retient Satan pour qu'il ne séduise plus les nations pendant un certain temps, représenté symboliquement par 1000 ans. Alors, ça correspond à ça. Après quoi, il doit être lâché pour un peu de temps. Et c'est le même schéma. Je crois que ce qu'il retient, c'est, si vous voulez, la chaîne en langage symbolique, la chaîne d'Apocalypse 20. Celui qu'il retient, c'est l'ange qui empêche Satan d'agir comme il le voudrait, en particulier pour séduire les nations, pour empêcher les nations d'être évangélisées. Il ne peut plus les séduire comme il le faisait avant. Avant, il avait libre cours, il n'y avait pas d'évangélisation des nations. Mais à partir de la première venue du Christ, il y a une retenue, une restreinte de l'activité satanique qui permet l'évangélisation des nations. Le mystère d'iniquité est retenu, il ne peut plus les séduire et viennent au Christ en un certain nombre. Une fois que la plénitude des païens sera entrée, je crois que, alors là nous allons y venir en novembre et décembre, je crois qu'il y aura aussi une plénitude d'Israël, et puis cela étant achevé, l'Antichrist triomphera pour un peu de temps et sera à son tour vaincu par l'avènement du Christ. Et c'est donc l'interprétation qui paraît la plus plausible pour ce qui le retient.
Vous avez parlé du pape, il y a un question, il y a certains commentateurs qui parlent du chiffre 666 et qui parlent de la croix du pape avec marqué du terroriste et du chiffre. Et puis qui lit ces chiffres en latin, et ça a même logique. Qu'est-ce que ça vous pensez de ça?
Oui, j'en ai parlé la dernière fois. Je pense qu'il y a peut-être un enregistrement, mais c'est bien vrai, c'est impressionnant que en chiffre romain, ce qui est écrit sur le trône du pape, Vicarius Filii Dei, vicaire du Fils de Dieu, ça fait 666. Et il est bien vrai que, quant au sens aussi, ça veut dire la même chose qu'Antichrist. Parce qu'un des sens d'Antichrist, parce qu'Antichrist, ça veut dire celui qui se met à la place du Christ. Vicaire, celui qui se met à la place. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est impressionnant. Ça ne suffit pas, à mon avis, pour que nous disions « Ah, ben, ça c'est lui. » Mais je vous avoue que si nous voyons un catholicisme beaucoup plus éloigné de l'écriture encore que ce que nous voyons, hein, c'est possible. À l'heure actuelle, dans le christianisme, il y a encore des restes de vérité biblique très apparents et importants. Mais s'il devait évoluer vers plus de corruption encore, s'il devait s'unir à un système totalitaire politique, alors là, je dirais qu'on ne serait pas loin de ce que il me semble indiqué dans les prophéties. Oui, je pense que c'est devant être la dernière à cause de l'heure, mais ensuite.
On a parlé de l'Antéchrist qui vient de la mer, on a parlé de la bête qui vient de la terre, on peut penser d'Israël. Quand je vois par exemple la station du Seigneur Jésus-Christ, lorsque César lui dit que Pilate dit que celui-ci c'est le roi des Juifs. On voit les gens du peuple qui étaient là, ils nous avons le roi que César. On voit cette bête aussi qui veut faire adorer l'Antéchrist. Alors, bon, l'image paganiste et la terre, bon, par exemple, actuellement, pour la papauté, bon, par exemple, lorsqu'on voit le premier consul dans l'Épître aux Romains, dans l'acte des apôtres, c'est le Saint-Esprit, par exemple, qui dirige, pour choisir, par exemple, pour passer à un apôtre, l'Antéchristisme. Mais par exemple, des journalistes qui disent maintenant qu'au nouveau pape, il faut que le pape soit prophète. Alors, est-ce que c'est l'esprit qui choisit
pour... Alors, disons, moi je laisserai de côté ce qui concerne l'élection du pape actuellement, mais je suis très frappé par ce que vous venez de dire. Je n'y avais jamais pensé, ça me paraît très très perspicace et enrichissant pour tous. En effet, lors de la passion de notre Seigneur, nous voyons les grands prêtres, les docteurs du judaïsme, faire comme la deuxième bête, les adorateurs de César, et dire, c'est lui notre Seigneur. Donc, c'est comme une correspondance avec ce que nous envisagions tout à l'heure, qui est très frappant. Je vous remercie beaucoup de l'avoir fait apparaître. Bon, eh bien, je crois que nous devons nous arrêter ici pour aujourd'hui.